Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Iran, États-Unis, le doigt sur la détente et l'autoritarisme en politique est-il plus efficace ? Nos débatteurs ce dimanche, Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis de Rome. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde, votre dernier livre chez Stock, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, vous avez publié L'art de la paix chez Flammarion. Et Farid Vahid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons quelques-uns des dirigeants politiques de la planète. Nayib Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine ou encore Donald Trump aux États-Unis. Élus démocratiquement, ils ont en commun de s'affranchir des règles pour gouverner avec parfois une certaine efficacité. Et c'est un plaidoyer pour l'autoritarisme et la manière forte. Nous en débattrons. Mais pour commencer, direction Rome, où se tenait hier le deuxième round de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur fond de programme nucléaire iranien. Alors assiste-t-on à un début de dégel ? À la sortie des discussions indirectes hier, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi se montrait plutôt confiant.
C'était une bonne réunion et je peux dire que les négociations avancent. Cette fois-ci, nous sommes parvenus à une meilleure compréhension d'une série de principes et d'objectifs. Les négociations doivent se poursuivre et entrer dans une nouvelle phase avant que les réunions d'experts puissent commencer.
Parfois, une simple rencontre entre diplomates peut se révéler cruciale pour l'avenir de la paix dans le monde. Cette phrase gorgée d'optimisme, on pouvait la lire mardi sous la plume de Renaud Girard, journaliste au Figaro, à propos de la reprise encourageante des pourparlers entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien. Car c'est un fait, ils se reparlent après des années de brouilles et d'invectives. Américains et Iraniens ont accepté de reprendre officiellement contact. C'était il y a 8 jours dans le Sultanat d'Oman. Rencontre indirecte, mais de haut niveau, puisque l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, y prenaient part. Échange qualifié de très positif et constructif, fondé sur le respect mutuel, un pas en avant vers un résultat mutuellement bénéfique. À tel point qu'un deuxième round de pourparlers avait donc été planifié. Il a eu lieu à Rome, cette fois hier, en compagnie des mêmes protagonistes. Et samedi prochain, rebelote. Alors s'il est encore trop tôt pour parler d'un véritable tournant, c'est indéniablement une surprise que ce début de dégel, surtout côté américain. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait quitté avec fracas l'accord de Vienne de 2015, visant à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions contre le pays. C'est pourtant ce même Trump qui a annoncé avoir renoué le contact avec la République islamique. Les Iraniens, eux, et leur guide suprême Ali Khamenei, y ont un véritable intérêt. Contesté à l'intérieur, le régime est affaibli à l'extérieur. Son allié, le Hezbollah, a été en partie décimé par l'armée israélienne. La Syrie a changé de main. Damas a pris ses distances avec Téhéran. Obtenir un allègement des sanctions offrirait donc un sursis, voire une assurance vie aux dirigeants du pays. À condition bien sûr de se mettre d'accord sur l'objectif de futures négociations, à un moment où l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, se rappelle au bon souvenir des participants avec cet avertissement en forme d'ultimatum. L'Iran n'est pas loin de disposer de la bombe atomique. Washington et Téhéran ont peu de temps pour parvenir à un accord. Farid Vahid, pour commencer, évoquons la reprise de ces pourparlers. Donc déjà 2 rounds, 1 la semaine dernière, 1 hier et 1 prochain à nouveau dans le Sultanat d'Oman. Ce sera samedi prochain. Comment est-ce que vous qualifieriez ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est un dégel, un tournant, une détente entre les deux pays ?
Alors oui, c'est clairement une détente. Ça peut être assez surprenant. Comme vous l'avez dit, Trump était sorti lui-même de l'accord de 2018 et il avait surtout assassiné... éliminait plutôt le général Soleimani en 2020, donc la République islamique promettait une vengeance terrible. Mais en fait, dans la reprise des négociations, il faut surtout voir une fragilité extrêmement importante de la part du régime, avec des crises dans tous les sens. La crise politique avec le mouvement Femmes et Liberté, Mahsa Amini. Vous avez la crise régionale, l'Iran a perdu toute sa force de dissuasion, son axe de la résistance. Donc le Hamas, le Hezbollah, la Syrie qui a quand même changé de pouvoir si rapidement. Ça a beaucoup choqué les Iraniens, ça a beaucoup marqué le régime iranien. Et je pense aujourd'hui, le régime a réellement peur d'une explosion à l'intérieur du pays. Et c'est dans ce contexte-là où l'ayatollah Khamenei n'avait absolument pas envie de reprendre les négociations avec les États-Unis. On peut aussi peut-être voir un changement plus profond de la nature du régime, où les ayatollahs seraient mis un peu de côté et les militaires, les oligarques, un peu plus conscients de la fragilité du système et très attachés à leurs bénéfices économiques, voudraient reprendre les négociations avec les États-Unis. Donc c'est compréhensible des deux côtés, du côté américain aussi. Ils n'ont pas envie de rentrer dans un nouveau conflit militaire dans la région. Ils ont d'autres priorités. Il y a Gaza, il y a l'Ukraine, il y a la Chine. Donc en fait, ça peut se comprendre, leur volonté de négociation. Mais ça reste quand même très compliqué. Des deux côtés, il y a des groupes de pression qui sont contre cet accord. Du côté américain, les conservateurs, les groupes pro-Israël. Du côté iranien, les ultra-conservateurs qui ont tout intérêt à ce que les sanctions restent en place et qui gardent leur monopole économique. Donc voilà, l'accord, c'est pas pour tout de suite. Et ça n'arrangera pas forcément, mais on en reparlera, la population iranienne. Ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est sûr que ça fera gagner un peu de temps au régime.
Mais encore un mot sur le régime, justement, dont vous dites qu'il est affaibli. Quel est l'intérêt pour le président américain de discuter, d'entamer des discussions avec un régime qui est affaibli? Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à le laisser s'affaiblir encore davantage pour être mieux placé dans des pourparlers?
Vu que l'Iran a perdu, comme je vous ai dit, sa dissuasion principale, effective, qui était l'axe de la résistance, ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, de plus en plus de responsables du régime pensent qu'il est nécessaire maintenant de se doter de l'arme nucléaire pour avoir une dissuasion importante, crédible, contre Israël et contre les États-Unis. Donc il y a quand même un problème nucléaire à régler, et les États-Unis ne peuvent pas fermer les yeux sur l'enrichissement à 60%, à 20% en Iran, donc c'est un problème qu'ils doivent régler, et il n'y a pas 36 solutions, il y a deux solutions, soit c'est une solution militaire, des frappes israéliennes, américaines sur les installations iraniennes, mais ça reste une opération très compliquée, et de toute façon ça ne détruira pas le savoir-faire iranien en matière nucléaire, et l'autre solution qui est plus rationnelle, si on parle que de la question nucléaire, c'est une solution diplomatique, mais ça va être un accord qui va beaucoup ressembler à l'accord de 2015. Donc finalement, Trump serait sorti d'un accord et il va refaire plus ou moins le même accord 7 ans après.
Il faut d'ailleurs remarquer que Donald Trump conserve les deux options, c'est-à-dire à la fois il parle de diplomatie tout en continuant de menacer le régime iranien. On a l'impression qu'on est dans du pur style de Donald Trump sur cette question du nucléaire iranien, Bertrand Badie.
Oui, je crois qu'il y a un alignement des planètes en ce moment, mais les alignements de planètes, c'est toujours très fragile et très provisoire. C'est-à-dire que paradoxalement, pour entrer dans le sujet de manière un peu brutale, Netanyahou est en train de servir ses négociations, alors qu'il en a très peur et qu'il n'en veut pas. Pourquoi ? Parce que Trump, en arrivant au pouvoir, espérait se distinguer en créant deux paix. Une paix au Proche-Orient, une paix sur le front russo-ukrainien. Sur le front proche-oriental, il avait mis tellement d'efforts que c'était la veille de son investiture, le 19 janvier, qu'il avait forcé le cessez-le-feu. Et puis, ça s'est écroulé. Maintenant, plus personne n'en parle, et au contraire, on est dans la montée aux extrêmes. Côté ukrainien, ça donne rien non plus. Pouvoir faire du spectaculaire dans un troisième champ qui est le champ du nucléaire iranien, ça lui permet de sauver sa mise. Cet homme ne vit que de spectacle, faut pas l'oublier. Et le spectacle trumpien au Proche-Orient et cette pantalonnade sur la Riviera à Gaza et cette incroyable déception dans les négociations russo-ukrainiennes lui laisse une lueur d'espoir, c'est marquer le monde par un accord avec l'Iran. L'Iran a besoin de cet accord. Alors, il faut faire très attention, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, mais j'irai peut-être encore plus loin. C'est-à-dire que les négociations n'ont jamais été interrompues. On sait maintenant que Trump a cassé l'accord de 2015 en 2018, mais en 2019, sous Trump 1, on avait déjà repris les négociations. Les négociations fonctionnaient également sous Biden, qui lui espérait véritablement aboutir. Le 7 octobre les a interrompues, mais elles ont repris au printemps 2024.
Donc, sauf que là, on les affiche de manière officielle. Donc il y a quand même la volonté.
Oui,
quand même
mais c'est pour vous montrer qu'il y avait un réel désir d'avancer. Et côté iranien, il y a deux raisons. Il y a effectivement une situation économique qui est absolument épouvantable. Ce pauvre peuple iranien est pris à la gorge. Deux Iraniens sur trois vivent en dessous du seuil de pauvreté. On vendait, avant 2018, 2,5 millions de barils par jour, on n'en vend plus que 600 000. Vous imaginez, ces sanctions, c'est incroyable. Israël tue, enfin le gouvernement israélien tue des dizaines de milliers de personnes et d'enfants, n'est pas sanctionné. L'Iran est hyper sanctionné. Il y a là quand même quelque chose qui d'ailleurs est très mal vécu dans l'image que ça exprime au sein du peuple iranien. Et puis il y a une société civile qui est complètement coupée de ce régime et qu'il faut tenter de réintégrer dans un système politique si celui-ci veut durer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le discours officiel iranien a toujours été de dire « nous on veut du nucléaire, mais du nucléaire civil. On veut pas d'armes, c'est d'ailleurs considéré comme haram, comme contraire à la loi de Dieu, etc. » Et on voit, et c'est ça qui est passionnant, c'est que l'usage qui est fait de la référence à l'arme atomique par l'Iran est toujours un usage dissuasif. Si vous n'êtes pas gentil, je me dote de l'arme nucléaire. Et maintenant, si vous ne parvenez pas à un accord, eh bien à ce moment-là, on sera obligé d'aller vers l'arme nucléaire. Et donc, cette espèce de dissuasion à l'envers, qui consiste à utiliser l'arme nucléaire, non pas pour dissuader, mais pour dissuader ceux qui ne voudraient pas entrer dans une stratégie coopérative en disant bah, « si vous ne faites pas de coopération, c'est pour le coup que vous l'aurez », est quand même quelque chose d'assez astucieux. Et il semblerait que les États-Unis sont pris à ce piège. Ceci étant, il ne faut quand même pas oublier une chose, pardon, je termine là-dessus. Quand on dit que l'Iran est au seuil de l'arme nucléaire, ce n'est pas vrai. Il faut un sérieux effort pour passer de cet enrichissement à 60% maintenant à la bombe et à la détention de missiles balistiques qui permettraient de rendre ces bombes opérationnelles. On en est très loin.
En tout cas, c'est ce que dit le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui était à Téhéran mercredi soir, qui dit certes, alors l'Iran n'a pas encore la capacité d'avoir la bombe, mais il n'en est plus très loin. Il faut quand même se dépêcher pour avoir un accord, sinon ça finira par arriver. Il y a de nombreux interlocuteurs, évidemment, autour de cette question du nucléaire iranien. Et vous en avez parlé, Bertrand Badi. Il y a aussi le cas d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, Sylvie Kaufmann, le gouvernement israélien est pour l'instant, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, c'est pour parler, mais pour l'instant le grand perdant de cette discussion parce que Israël se retrouve lâché par son principal allié que sont les États-Unis.
Oui, provisoirement en tout cas. C'est tout à fait intéressant l'angle israélien parce que le New York Times a publié cette semaine une enquête très bien documentée et visiblement bien informée selon laquelle, en fait, Israël, Netanyahou, avait décidé avait dressé un plan, élaboré tout un plan pour employer la manière forte contre le régime iranien et détruire les capacités nucléaires, militaires, ou le programme nucléaire militaire du régime iranien. Évidemment, pour faire ça, il a besoin des États-Unis. Parce que il y a, enfin bon, alors là on rentre dans des spécificités militaires, mais bon, il a besoin de l'appui des capacités militaires américaines et sans doute aussi de l'autorisation de l'utilisation de certaines armes. Et il y a eu un débat important au sein de l'administration Trump qui finalement s'est conclu en faveur de ceux qui pensaient que c'était une très mauvaise idée, que c'était très dangereux, parce que détruire certaines capacités iraniennes ne veut pas dire compromettre définitivement la capacité du régime iranien à relancer un programme militaire nucléaire, parce qu'ils auront toujours l'expertise qui ne va pas être détruite. Et puis il y a les stocks de matières fissiles. Enfin bon. Et puis surtout, le danger d'une déflagration régionale énorme, d'une riposte bien entendu iranienne à une telle attaque qui aurait peut-être viser aussi des pays du Golfe, les installations pétrolières, etc. Les conséquences auraient été très néfastes pour tout le monde, y compris potentiellement pour les États-Unis. Donc finalement, Trump a dit à Netanyahou, alors Netanyahou a appelé Trump début avril, toujours d'après cette enquête, pour lui parler de ça, et Trump lui aurait dit, écoute, on ne va pas parler de ça au téléphone, viens à Washington. Et effectivement, Netanyahou est allé à Washington le 7 avril, et c'est là, et donc Trump lui a expliqué qu'il n'était pas question qu'il ait recours à cette stratégie de l'attaque militaire contre le régime iranien. Et c'est là qu'il a annoncé l'ouverture des négociations avec l'Iran. Donc voilà, effectivement, Israël, Netanyahou semble avoir perdu cette manche, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Trump précise bien que si les négociations n'aboutissent pas, la menace militaire reste en vigueur, si vous voulez. Il y a une autre chose pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi maintenant ces négociations, à part tout ce qui a été dit sur la situation en Iran, le fait que Trump a aussi besoin d'un succès diplomatique puisqu'il est dans l'impasse sur tous ses autres chantiers. Il y a aussi une raison technique qui est celle des clauses qu'on appelle sunset, qui sont prévues par l'accord. Alors c'est curieux, mais bon, cet accord, bien qu'il ne soit plus en vigueur, l'accord de 2015, prévoyait des clauses selon lesquelles, en octobre 2025, si le programme nucléaire iranien n'était pas, si l'Iran n'avait pas rempli ses obligations, ses engagements sur la fin de ce programme nucléaire militaire, à ce moment-là, les pays européens et occidentaux pourraient imposer d'autres sanctions. Donc là, il y a un délai, si vous voulez, technique en octobre, qui fait un calendrier qui fait qu'il faut se dépêcher un petit peu.
Alors cet accord, donc, qui fait référence celui de 2015, Marc Lazare, il a été signé par l'Iran d'une part, en tout cas adopté, et d'autre part par les membres du Conseil permanent de sécurité, parmi lesquels les Européens qui sont étonnamment absents des discussions actuellement, sauf que, alors il y avait cette réunion indirecte hier dans cette ville que vous connaissez bien, à Rome, en Italie, mais malgré tout, je ne sais pas si c'est une sorte de lot de consolation ou plutôt un effet d'aubaine parce qu'il y avait certains membres des délégations qui se trouvaient en Italie à ce moment-là, mais on est quand même surpris de voir à quel point les Européens sont absents de cette reprise des pour parler, alors qu'ils étaient très engagés dans l'accord de Vienne en 2015.
Oui, c'est vrai, c'est sans doute le constat qu'on peut faire au moment précis où on parle. L'Union européenne absente, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire les pays membres du Conseil de sécurité pour l'Europe, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni, et l'Allemagne. L'Allemagne avait été intégrée dans cet accord de 2015. Et là, sont complètement marginalisés. C'est vrai que ça se passe à Rome. C'est un élément important. Ces quelques jours ont été un grand moment pour Rome, et notamment pour la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, puisque on y reviendra peut-être. Elle était aux États-Unis, a reçu le vice-président américain Vance à Rome, qui lui aussi allait par ailleurs au Vatican. Et donc, quand on lit d'ailleurs les journaux italiens, il y a une sorte de grande fierté aujourd'hui. C'est-à-dire que Rome est redevenue une ville importante et l'Italie, Italy is back, l'Italie est de retour. Voilà. Même si l'Italie n'intervient pas dans cette négociation, elle est juste le lieu où ça se fait. En plus, ça se passe au consulat d'Oman à Rome. Mais c'est assez étrange, je rapporte comme plus qu'anecdote, Matteo Salvini, vice-président du Conseil, comme par hasard, a été photographié et s'est fait voir juste devant le lieu de la négociation en disant bah, « j'allais faire mes courses, il était même en Bermuda ». Et puis, le ministre des Affaires étrangères, M. Tajani, qui est quand même quelqu'un qui pèse dans le gouvernement, puisqu'il est lui aussi vice-président du Conseil, a expliqué le rôle que l'Italie pensait pouvoir avoir dans le Moyen-Orient. Je crois qu'il faut jamais oublier que l'Italie, c'est le pays de la médiation. Et ça, c'est très important, à la fois du point de vue du gouvernement et du point de vue du Vatican. Je voudrais rajouter deux petites réflexions. Je crois que du côté, en tout cas, américain, il y a une volonté de Trump d'affirmer, justement, que les États-Unis reste une puissance mondiale et qu'ils ont un rôle à jouer, en particulier au Moyen-Orient. Évidemment, on laisse de côté l'Union européenne, évidemment du côté américain. Et d'autre part, il y a un message, je pense, aussi envoyé à la Russie. On en n'en a pas encore parlé, mais il y a un message envoyé à la Russie en disant c'est nous qui allons peut-être négocier et c'est nous qui sommes à la manœuvre. Le tout confié à un homme qui apparemment n'a aucune compétence. Ben, on n'en a pas parlé non plus, mais Steve Witkoff est quelqu'un qui n'a aucune compétence. Et ça, c'est un élément sur lequel peut-être un certain nombre d'entre vous ont des informations, parce qu'apparemment, il s'est engagé là-dedans. Alors, je ne sais pas comment est composée la délégation américaine, mais c'est quelqu'un qui vient de l'immobilier, qui découvre toute cette réalité. Et donc
comme
plusieurs...
Trump, hein.
Pardon ?
Comme Trump, parce qu'il n'a pas empêché d'être élu président.
Alors, on souligne souvent que la délégation iranienne est composée de gens qui ont une grosse expérience dans la négociation. Donc, ce sera très intéressant de voir comment ça se concrétise. Puis, il y a un autre message qui me semble tout à fait important de la part, en tout cas, de l'administration américaine. En revenant, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Bertrand, sur le contexte, l'Ukraine, c'est pas réglé, le Moyen-Orient, c'est pas réglé. Mais c'est le fait que Trump a toujours dit qu'il voulait être l'homme de la paix, qu'il garantissait aux Américains que cette fois-ci avec lui, à la différence de Biden, c'est la guerre de Biden, celle de l'Ukraine, a-t-il dit, hein, c'est l'incompétence de Biden, ça revient en permanence dans ses discours, que lui, au moins, c'est avec lui, ça va être la paix. La paix pour les Américains, le retour de l'âge d'or américain, je pense que c'est un élément important qui peut-être explique la volonté d'aboutir à des négociations. Enfin, dernier point sur Israël, reste à voir ce que fera Netanyahou si jamais les négociations arrivent à terme. On ne peut pas exclure une provocation israélienne pour essayer de mettre à bas immédiatement ces négociations. Il y a des services secrets israéliens particulièrement aguerris qui peuvent essayer de provoquer des négociations et faire capoter ces négociations au dernier moment. Israël ne peut pas se permettre d'avoir des négociations qui aboutissent entre l'Iran et les États-Unis.
Vous avez évoqué, Marc Lazare, le cas de la Russie. Le ministre iranien des Affaires étrangères était à Moscou, je crois que c'était jeudi soir. Pour quelle raison, Farid Vahid ? C'est-à-dire, est-ce que dans ces négociations, l'Iran a besoin du soutien, voire d'une forme de feuille de route qui leur serait délivrée par les Russes pour aller plus en avant ? Est-ce que d'ailleurs on peut faire un lien entre ce qui est en train de se passer sur le nucléaire iranien et ce qui est en train de se passer en Ukraine ? Est-ce que ces deux dossiers peuvent être liés ?
Ben, déjà, ce qui est en lien, c'est effectivement l'effacement du rôle des Européens, parce que sur le dossier nucléaire, ça s'est toujours fait par l'intermédiaire de l'Union Européenne. Il n'y aurait jamais eu de JCPOA, d'accord nucléaire, en 2015, sans le rôle de l'Union Européenne, des pays européens.
Donc, cet acronyme que vous venez de dire, c'est
le plan d'action global commun,
c'est le nom de l'accord
de 2015. Donc, effectivement, c'est inquiétant du côté européen de voir leur rôle réduit à avoir les négociations dans l'ambassade d'Oman à Rome, parce que certaines questions ne seront pas évoquées par l'administration américaine s'il y a accord, par exemple le soutien militaire de l'Iran à la Russie, la question des drones, par exemple la question des otages français en Iran. Donc effectivement, il n'y a pas de lien direct, mais ça serait quand même assez hallucinant d'imaginer un accord qui permettrait à l'Iran de débloquer des milliards de dollars avec une république islamique qui garde des otages européens dans ses prisons ou qui vend des drones aux Ukrainiens. Mais on sait très bien que les Américains sont insensibles à ces questions-là. Mais sur la question entre l'Iran et la Russie, il y a une alliance, une entente en tout cas entre les deux pays stratégiques, mais les Iraniens ne sont pas du tout naïfs sur le soutien russe. Et d'ailleurs, les Russes, ils ont déclaré que s'il y avait une attaque militaire américaine ou israélienne contre l'Iran, bon, ils feraient pas grand-chose non plus pour défendre l'Iran. Et effectivement, le rapprochement entre Washington et Moscou forcément inquiète la République islamique aussi. Donc aujourd'hui, le régime est obligé de toute façon d'entrer dans ces négociations. Et pour comprendre un peu plus aussi pourquoi Trump le fait, ce qui empêchait beaucoup les Américains et les Occidentaux aussi finalement de parvenir à un accord pendant les années 2010, ce qui les inquiétait beaucoup, c'était le rôle régional de l'Iran. Bon, la question était en grande partie réglée aujourd'hui dans le Moyen-Orient post 7 octobre. Netanyahou a fait ce travail-là d'anéantissement de l'axe de la résistance, donc il n'y a plus vraiment cette inquiétude du rôle régional de l'Iran, ce que le régime refusait à l'époque de négocier. Il y a la question de missiles balistiques, mais c'est une ligne rouge de l'Iran. Je ne pense pas qu'ils vont rentrer dans ces négociations-là. Donc effectivement, si les Américains demandent à l'Iran de limiter l'enrichissement à un taux, on va dire, de 3,67%, il est tout à fait imaginable aujourd'hui de parvenir à un accord. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que les Israéliens n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont quand même des moyens de pression. Effectivement, ils ont des services d'enseignement extrêmement compétents qui ont très bien infiltré la République islamique. Donc, ils feraient tout pour empêcher cet accord, parce que le problème finalement c'est pas le nucléaire. Je pense que ça n'a jamais été le nucléaire, parce que le nucléaire était réglé en 2015, si le problème c'était l'arme nucléaire. Le problème israélien, c'est d'avoir un régime économiquement prospère et qui aura les mains libres à reconstituer un axe avec des milices problématiques dans la région. L'Iran, c'est 80 millions d'habitants. Ça peut très vite devenir un pays très puissant. Donc voilà, c'est un problème plus profond.
On peut d'ailleurs rappeler que Israël est aussi une puissance nucléaire, même si elle ne l'est pas officiellement, mais ça a été quand même renseigné, on va dire, le fait que c'était aussi un pays qui disposait de l'arme nucléaire. Et juste petite précision, vous évoquiez, Farid Vaid, ce chiffre de 3,67%, vous ne le citez pas par hasard, parce que c'était le chiffre qui était dans l'accord de Vienne de 2015. Ça. Bertrand Badi.
Oui, moi je suis en gros d'accord avec ce que vous avez dit, mais... pas forcément sur les conclusions auxquelles vous parvenez. D'abord, première remarque, dans ce jeu de négociation, l'Iran, paradoxalement, est en situation plus proactive que réactive. Pourquoi ? Parce que, on le disait tout à l'heure, Trump, lui, il veut arriver le plus vite possible à un accord, donner du spectacle, afficher, etc. L'Iran a un jeu... plus subtil, parce que pour l'Iran, évidemment, la négociation est beaucoup plus cruciale. Hein. C'est absolument évident. Mais l'idée, premièrement, est une stratégie de blocage des États-Unis de manière à débloquer la situation de l'Iran dans la région au risque de provoquer de nouveaux blocages. C'est ça que je voudrais montrer. Bloquer comment ? Il y a deux infériorités qui jouent contre Trump en ce moment. D'abord, l'accord de 2015, il avait été négocié avec les démocrates, avec Barack Obama. Et Trump était dans la position confortable du contestataire et la facilité qui lui était offerte lorsqu'il revenait, ou qu'il arrivait plus exactement à la Maison-Blanche, de dire « c'était très mauvais, c'est le pire des accords qui ait jamais été signé, je le déchire, voyez comme je suis intelligent, perspicace, etc. » Là, c'est lui qui va le signer. Donc, il ne pourra que très difficilement le contester. Il n'est pas dans la position confortable qu'il avait dans le créneau de 2015-2018, quoi, en quelque sorte. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que je suis en léger d'accord avec vous.
Avec Farid Vaid.
Oui, merci. Oui, c'est ça. Pardon, c'est vrai qu'on voit pas les gestes à la radio. Parce que la Russie joue comme un verrou davantage défavorable à Trump qu'à l'Iran. Parce que si véritablement l'Iran se lance dans une attaque massive, les États-Unis, pardon, se lancent dans une attaque massive comme Trump l'a promis en cas d'échec de négociation, il est impossible à un homme comme Poutine de laisser les choses se faire et de regarder ce qui se passe. Il faut quand même pas oublier ce qu'est un autocrate. Un autocrate, c'est quelqu'un qui, à tout prix, ne doit pas perdre la face. Si les États-Unis venaient à écraser militairement l'Iran, l'Iran qui passe non pas comme un allié, mais en tous les cas comme un partenaire privilégié qui est à la porte de la Russie, c'est quelque chose d'inadmissible pour le pouvoir du Kremlin. Donc, je pense que les Iraniens jouent de cette carte en disant « mais il y a là un frein, vous pourrez pas faire ce que vous voudrez, parce qu'à ce moment-là, tout l'investissement que vous avez consenti et qui est élevé pour se réconcilier avec la Russie de Poutine serait perdu. » Et donc, le rêve des dirigeants iraniens, c'est par cet accord, et c'est dans ça je pense qu'ils ont une stratégie proactive, de recouvrer le statut de puissance régionale. Vous savez, il y a une seule chose qui véritablement motive l'Iran déjà du temps du Shah, et la République islamique n'a rien changé, c'est de s'imposer comme puissance régionale. Et tout le problème, c'est justement comment Israël peut accepter ou ne pas accepter qu'il y ait une puissance régionale d'équilibre. Pour l'instant, Israël est la seule puissance nucléaire, l'Iran ne sera probablement pas une puissance nucléaire militaire, mais s'il y a un accord, ce sera une puissance régionale reconnue, dotée d'un statut, avec qui il faudra de toute manière compter dans la grande recomposition de la région. Je vois que vous en avez marre que je parle.
J'en ai pas marre, je pourrais vous écouter pendant des heures, Bertrand Badi, mais j'ai tellement aussi envie d'écouter Sylvie Kaufmann et nos autres amis. Sylvie.
Oui, toute cette... j'en perds mon latin. Toute cette conversation montre à quel point le monde a changé depuis le JCPOA, depuis la signature de cet accord en 2015, donc il y a 10 ans. Le monde n'est plus le même. Vous parlez de l'absence des Européens, mais effectivement, en 2015, cet accord, c'était les pays du P5, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui négociaient ensemble. Et on avait ajouté l'Allemagne et l'Union européenne pour tenir compte de l'équilibre géopolitique de l'époque en Europe, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça serait absolument impossible. Déjà, la Russie et la Chine, la Russie ne peut pas être du même côté que les pays européens qu'elle considère comme ses ennemis à cause de la guerre en Ukraine. Donc voilà, ça c'est une chose. Le Moyen-Orient a complètement changé aussi. L'Arabie saoudite, elle parle directement avec l'Iran. Elle n'a plus besoin de passer par les États-Unis. La Syrie, on en a parlé. La Turquie a un autre rôle aussi. Donc tout ça est très différent. Il y a le monde de l'après 7 octobre. Et ça n'est plus à Genève ni à Vienne qu'on négocie tout ça. C'est à Oman, c'est au Qatar. Voilà, donc tout ça est vraiment très différent. Juste deux choses pour répondre à...
brièvement, pour qu'on entende encore Farid Vaïd sur ce sujet.
Trump n'est pas dans une position confortable. Moi, je trouve qu'il est dans une position beaucoup plus confortable qu'il y a que quand il était dans l'opposition. Il a le Congrès, il a la Cour suprême, il fait tout ce qu'il veut. Et puis le Kremlin, je ne suis pas sûre que Poutine a le pouvoir d'être sur tous les fronts en ce moment. Je crois qu'il a beaucoup à faire déjà en Europe.
Un dernier mot, Farid Vaïd, sur cette question. Vous l'évoquiez tout à l'heure au début de votre intervention, la question de la population iranienne face à cette possibilité d'un accord. On sait qu'il y a une contestation politique à l'intérieur du régime et qu'il y a une situation économique qui a été décrite qui est absolument catastrophique. Quelle serait la meilleure chose qui puisse arriver aux Iraniens ? C'est-à-dire qu'il y ait un accord et qu'il y ait une levée des sanctions ou bien que ce soit d'abord le régime qui tombe avant qu'on puisse passer à autre chose ?
La meilleure chose qui puisse arriver aux Iraniens, in fine, c'est un changement de régime. Mais ça, tout le monde le sait, ça sera un régime démocratique et laïque, une séparation de la... aux légions et de la politique, donc c'est un peu la... Voilà, pour répondre à la question, la meilleure chose qui pourrait arriver aux Iraniens.
Mais s'il y a un accord, ça peut renforcer le régime, justement.
Le monde a changé et l'Iran a changé aussi. L'Iran, avant 2015, avait un enthousiasme absolument majeur de la population qui suivait les négociations avec très grand intérêt. L'accord qui a été signé le 14 juillet, d'ailleurs, a été fêté et célébré dans les rues de Téhéran. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, les gens regardent très attentivement les négociations. De toute façon, il y a une obsession sur les États-Unis. C'est tellement un tabou, les négociations entre le régime et les États-Unis, que forcément, ça crée un enthousiasme. Et ça touche tellement directement la vie des Iraniens. Vous savez, tous les Iraniens aujourd'hui sont devenus spécialistes du Wisconsin et du Mississippi, parce qu'ils regardent tellement attentivement les élections américaines. Forcément, ça touche le taux de change, et ça touche... toute la vie d'un Iranien, même lambda, sera bousculée par un éventuel accord entre les deux pays. Et surtout, un accord, ça veut dire l'éloignement, on va dire, d'un risque de guerre qui est réel et qui, pour le coup, inquiète beaucoup les Iraniens. Une attaque israélienne ou américaine contre les infrastructures pétrolières ou même nucléaires du pays enchaînera encore une catastrophe économique considérable. Donc, les Iraniens regardent attentivement, mais je dirais sans forcément beaucoup d'enthousiasme et d'illusions. Ils savent que les problèmes auxquels ils sont confrontés font partie. En fait, les racines se trouvent dans l'ADN même du régime. Et ils savent que, avec un régime qui a l'islam politique comme l'idéologie, ils n'auront pas la vie qu'ils espèrent avoir. Donc, ils regardent, parce qu'il y aura des conséquences, mais ils n'ont pas d'illusions et ils ne pensent pas avoir une meilleure vie dans les prochaines semaines ou prochains mois.
Voilà, il est 11h33 sur France Culture. On va passer à présent notre deuxième débat à propos toujours de Donald Trump, mais qui recevait cette fois-ci, c'était en début de semaine à la Maison-Blanche, le président du Salvador, Nayib Bukele.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardet.
Merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir l'un de mes amis, car nous avons traversé cette épreuve ensemble et nous nous sommes très bien entendus pendant toute la période où j'étais en poste. Je l'ai connu très jeune homme. Maintenant, il est juste un jeune homme. Mais il a fait un travail fantastique. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous recevoir. Merci de faire un travail incroyable pour votre pays. Nous apprécions travailler avec vous parce que vous voulez arrêter la criminalité, et nous aussi.
Dans son dernier ouvrage, L'heure des prédateurs, l'écrivain Giuliano D'Ampoli s'intéresse entre autres à Nayib Bukele, 43 ans, président du Salvador depuis 2019, autoproclamé dictateur le plus cool de la Terre. Il était donc reçu cette semaine par Donald Trump à la Maison Blanche. En février 2024, Bukele est réélu avec plus de 84% des voix. Un triomphe dû en grande partie à l'efficacité de sa politique contre l'insécurité. Avant lui, le Salvador, gangréné par les gangs, était un des pays les plus violent au monde, il est devenu un des plus sûrs. Depuis que Bukele est au pouvoir, le taux d'homicide a été divisé par 10. Sa méthode, simple pour ne pas dire simpliste, partant du principe que tous les criminels ont des tatouages, le président salvadorien a ordonné à la police d'arrêter tous les tatoués. Résultat, 80 000 personnes en prison et tant pis s'il y a des innocents dans le lot. À la tribune de l'ONU à l'automne dernier, Nayib Bukele se justifie ainsi. Certains disent que nous avons emprisonné des milliers de personnes. La vérité est que nous en avons libéré des millions. Alors ici, on voit que la fin justifie les moyens. Les règles du droit sont bafouées, mais peu importe, puisque l'efficacité est au rendez-vous. Et il en va du Salvador, comme de nombreuses autres démocraties désormais. L'Argentine, par exemple, et la gestion à la tronçonneuse de Javier Milei. Et Trump, bien sûr, Trump encore et toujours. Dans une chronique publiée cette semaine, cette fois dans Libération, le journaliste Luc Levaillant fait un constat qui a le mérite d'interpeller. Selon lui, le pouvoir politique, devenu le parent pauvre des démocraties, est en train de reprendre de la vigueur sous les coups de boutoir de l'autoritarisme. L'illibéralisme, écrit-il, a le mérite de faire bouger les choses. Il s'autorise à renverser la table, même si c'est dans le mauvais sens. Un retour du politique qui se traduit également par un bras de fer avec le pouvoir économique, comme on peut le voir par exemple sur la question des droits de douane. Et Luc Levaillant d'ajouter, en apprenti sorcier inconscient, parfois, je souhaiterais presque que Trump puisse appliquer son programme économique juste pour voir Wall Street mordre la poussière. N'est-ce pas une des clés du succès dans l'opinion des leaders autoritaires? Et nous sommes toujours en compagnie de Farid Vahid, de Bertrand Badi, de Sylvie Kaufmann et de Marc Lazare pour en discuter. Marc Lazare, est-ce que l'autoritarisme de certains dirigeants élus démocratiquement signe le retour du politique?
À la visite de Bukele, vous auriez pu rajouter la visite de Giorgia Meloni, parce que là aussi, il y a une des convergences incontestables, d'ailleurs, que Giorgia Meloni réclame et revendique. Est-ce que c'est... est-ce qu'il y a un retour du politique en un certain sens? Oui. Il y a une affirmation du pouvoir politique contre le pouvoir économique. Il faudrait vraiment beaucoup nuancer, tellement il y a d'intérêts économiques derrière, en particulier Donald Trump. Moi, ce qui me frappe, c'est que je crois qu'on est effectivement confronté à une nouvelle phase, incontestablement, d'un certain nombre de nos démocraties. Vous avez employé d'ailleurs deux notions, autoritarisme et démocratie libérale. Je crois qu'il y a un grand débat qu'on est en train d'avoir qui me fait penser au débat que les contemporains ont eu aux années 20, 30, lorsqu'ils ont essayé de comprendre ce qui se passait avec l'arrivée au pouvoir de Lénine en Russie, de Mussolini en Italie et à partir de 1933 d'Hitler en Allemagne. Mais je ne dis pas que c'est la même chose, mais ce que je veux dire, c'est quelle était l'interrogation de tous ces contemporains. À quoi a-t-on affaire? Manifestement, c'était pas la dictature classique, c'était pas la tyrannie, même si un de nos grands professeurs à l'École libre de sciences politiques, Elie Halevi, avait parlé de l'ère des tyrannies. Mais il y a un adjectif qui a surgi, qui était l'adjectif totalitaire, et d'ailleurs un concept qui a surgi très rapidement, pas simplement après la Seconde Guerre mondiale, mais dès ces années-là, le concept de totalitarisme. Je crois que nous sommes confrontés à cette question, c'est-à-dire comment caractériser ces régimes qui affirment effectivement de l'autorité, et dans le passage qu'on a entendu, c'était très intéressant parce que actuellement il y a un certain nombre de thématiques qui sont mises en avant. La question de la sécurité, vous l'avez rappelé, de la sécurité dans la vie quotidienne, contre la délinquance, contre la criminalité. La question de l'immigration, qui est absolument fondamentale, sur lequel il y a une convergence de tous ces autoritaires qui sont actuellement au pouvoir. Je mettrai Giorgia Meloni un peu de côté à cet égard. Troisième point aujourd'hui aussi, la négation du réchauffement climatique et la volonté de mettre à bas tout ce qui est les politiques de Green Deal. Et puis, tout un certain nombre d'éléments sur les valeurs, notamment le retour de la famille traditionnelle et de la religion, en particulier la religion chrétienne. Donc nous sommes confrontés à cela, incontestablement. Il y a un défi absolument considérable et qui tourne autour de la question, effectivement, de l'autorité. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une partie de l'opinion qui adhère à cela. C'est-à-dire qui adhère à cette volonté d'un retour du politique qui se marquerait par l'autorité, voire par l'autoritarisme. C'est pas exactement la même chose.
Mais est-ce qu'elle y adhère aussi en partie? Parce que quand on voit ces dirigeants à l'œuvre, il y a aussi une forme d'efficacité. Alors, Bukele, sur la criminalité, incontestablement, ça a baissé, même si, évidemment, les méthodes sont plus que contestables.
Bien sûr.
Cette notion d'efficacité, elle est importante aussi.
Oui, bien sûr, et vous pourriez rajouter, en Italie, Giorgia Meloni peut dire, grâce à moi, grâce à ma politique de réduction de l'activité des ONG, de négociation avec la Tunisie et l'Égypte, de la déterritorialisation de l'arrivée des migrants, j'ai réduit considérablement, dit-elle, l'arrivée des migrants. Et donc, c'est un argument qui porte. Alors, il faudra voir, effectivement, dans une relative moyenne durée, quels seront les effets économiques, parce que la politique des droits de douane aura un impact considérable si elle est appliquée comme Trump le veut. Elle est appliquée avec la Chine, apparemment il y a 90 jours de gel, mais ça aura un impact considérable sur l'opinion américaine et même sur la vie quotidienne des Américains. Mais oui, il y a effectivement cet argument de l'efficacité, mais il y a aussi toute une partie de l'opinion qui adhère. Et pas loin de nous, je voudrais vous prendre deux exemples qui sont tirés du baromètre de la confiance politique que fait chaque année le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po. Et cette année, c'était dans quatre pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie. J'aurais juste me contenter de la France et de l'Italie. Deux questions avaient été posées. Est-ce que ce serait bien d'avoir un leader fort qui pourrait se dispenser du vote et du Parlement? 41% de Français adhèrent, 39% des Italiens. Et est-ce que ce serait une bonne chose que l'armée dirige le pays? 30% de Français, 27% d'Italiens. Donc je pense que cette question, c'est pas simplement celle des leaders autoritaires qui s'affirment, qui prétendent avoir une efficacité, mais c'est véritablement un tournant nouveau de nos démocraties et d'autre part qui est conforté par une partie de l'opinion. On a là un défi absolument considérable dans nos démocraties. C'est pas simplement les États-Unis et El Salvador, c'est au cœur de l'Europe aujourd'hui.
Je vais même citer un troisième chiffre dans cette étude du CEVIPOF pour les Français, 73%. S'en souhaite un vrai chef pour remettre de l'ordre. Est-ce que les leaders autoritaires élus démocratiquement, Bertrand Badie, ont compris quelque chose? C'est-à-dire qu'il y avait une attente justement d'un retour du politique que les politiques peut-être plus traditionnelles avaient un peu oublié, comptant aussi peut-être sur d'autres pouvoirs ou contre-pouvoirs, comme par exemple la protection du droit pour permettre d'avancer.
Alors très brièvement, d'abord je dirais pas retour du politique. Moi je suis aristotélicien et pour moi le politique c'est l'art de la coexistence. C'est au contraire, moi je pense qu'il y a une régression formidable du politique au profit de quelque chose qui ne peut pas être son synonyme, à savoir la coercition, ce qui est quand même tout à fait différent. Mais vous avez tout à fait raison de poser le problème, parce que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment un peu partout dans le monde, c'est l'apparition de la puissance nue. C'est-à-dire de la puissance qui est débarrassée de la référence aux droits, de la référence aux valeurs et de la référence aux idéologies. Si nous nous rappelons notre enfance, notre jeunesse, les débats étaient des débats d'idées. C'était modèle de cité contre modèle de cité. Alors il y avait beaucoup de tromperies, beaucoup d'illusions, de naïveté, d'auto-justification, tout ce que vous voulez. Mais la puissance était présentée dans le discours politique comme instrumentale de quelque chose que l'on voulait réaliser. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la fin de tout cela. Je suis très préoccupé, par exemple, et ça rejoint la question que vous posez de manière très 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 directe, que de plus en plus se banalise le discours que l'état de droit, c'est pas un point fixe. C'est quelque chose qu'on peut changer. Monsieur Retailleau nous a expliqué qu'il suffisait d'un vote pour modifier l'état de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de principe antérieure à la puissance. La puissance était conçue dans les démocraties comme étant instrumentale. Maintenant, elle est auto-finalisée. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement important. Alors, pourquoi? Je crois que
sans tomber dans la facilité qu'est le discours sur la fin des idéologies, la régression quand même des idéologies construites, des modèles de cité, est quelque chose de faramineux. Si vous vous rappelez l'élection présidentielle en France en 1974, en 1981 et même encore en 1988, vous aviez cette référence à un modèle de cité. Aujourd'hui, on fait du marketing politique. Il y a aussi, et je pense que c'est le plus important, peut-être est-ce ma déformation professionnelle, un énorme phénomène de rétraction à l'intérieur des États-nations qui ont de plus en plus peur de la mondialisation, de la mondialité, des compétitions, de ces modèles nouveaux avec lesquels, pendant des siècles et des siècles, on n'avait pas à compter. Modèle chinois, le modèle du Sud global, on a très peur. Hein. Si vous dites Sud global, vous prenez une baffe, hein, y compris dans les institutions. Et tout ceci...
Vous vous adressiez à moi directement, non?
Pourquoi
non.
Vous...
Non, je crois que vous étiez en train de me menacer d'une baffe.
Mais non, mais le studio est petit, il faut bien que je regarde dans une direction, là-bas. Et donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire, finalement, dans cette compétition mondiale que l'on n'a jamais acceptée, le seul refuge, c'est l'identité. Et l'identité conduit de manière... direct à l'exacerbation de la puissance, c'est-à-dire, bah, toute façon, celui qui ne me ressemble pas est une menace permanente, et effectivement, ce que disait Marc à propos de l'immigration va tout à fait dans ce sens. Et puis, dernier élément, la régression de la liberté d'expression. Écoutez, moi j'ai enseigné pendant un demi-siècle dans ce pays. Pendant 48 ans, je me suis jamais demandé si je pouvais dire telle ou telle chose en cours, ça sortait tout seul. Maintenant, j'ai peur. Il y a un certain nombre de choses que je considère pas comme contestables sur le plan des valeurs, que l'on ne peut plus dire. Il y a une police de la pensée qui est en train de se banaliser et qui est effectivement une atteinte grave à la liberté d'expression. Maintenant, on peut se retrouver au tribunal parce qu'on a dit des choses qui ne plaisaient pas à tel ou tel. Ça, c'est véritablement... je dirais le cœur de notre sujet. Et c'est pas le retour du politique, c'est justement l'extinction du politique.
Et en même temps, tous ces phénomènes que vous décrivez, Bertrand Badi, rencontrent une certaine adhésion, puisque ceux qui en font usage, je le rappelle quand même, dans des démocraties, c'est-à-dire en tout cas dans des pays où les élections sont organisées de manière libre, on a évoqué le Salvador, il y a les États-Unis, on peut aussi parler, vous en avez parlé, Marc Lazare, de l'Italie, ou encore de l'Argentine avec Javier Milei, on voit bien que ces leaders-là restent quand même à un niveau de popularité assez important. Pour certains, se font réélire. Est-ce que ça veut dire que, je sais pas, dans l'électorat, il y a peut-être aussi l'idée, Sylvie Kaufmann, que la fin peut-être justifier les moyens, que si c'est au prix, alors je reviens sur cette question de l'efficacité, ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Oui, bon, il y a une tendance qui est très très nette et qui est documentée et qui est réelle, c'est le niveau d'insatisfaction dans les démocraties à l'égard de leurs gouvernants. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on constate une régression vraiment du nombre de démocraties dans le monde. Ça, c'est tous les organismes qui regardent ça de très près, comme Freedom House ou VIDEM, montrent que les chiffres sont terribles. Il y a une vague d'autocratisation d'une certaine manière. Pour la première fois en 20 ans, le monde, en 2024, comptait moins de démocratie que d'autocratie. Donc il y a vraiment une tendance réelle. La population mondiale qui vit sous des régimes autoritaire ou autocratique est aujourd'hui presque les trois quarts, 72%, alors qu'il y a 20 ans, c'était 49%. Donc on a vraiment ce mouvement que vous décrivez qui est réel. Alors oui, on peut essayer. Après, vous parlez d'efficacité. Et ça, je trouve ça, c'est un critère très intéressant. On peut parler d'efficacité. Il y a cette idée qu'on a, cette espèce de cliché qui est que si on veut construire un pont aux États-Unis, ça prend des mois parce qu'il va falloir consulter les associations, il y a les différents niveaux de décision locale, l'État fédéral, etc. Alors qu'en Chine, en trois mois, le pont, il est fait et personne ne s'en soucie. Il y a un niveau d'efficacité dans des régimes. Évidemment, le grand modèle, c'est Singapour. Singapour a été l'Kuan Yew et l'icône de plein de dirigeants autoritaires. C'est considéré comme une autocratie douce, d'une certaine manière. Voilà.
Ce même reproche, d'ailleurs, petite parenthèse, permettez-moi, oui. C'est c'est que on vient de l'entendre dans la bouche d'un grand patron français, hein, c'est Bernard Arnault, qui explique que si il risque de devoir faire davantage d'activités sur le sol américain, c'est pas parce que c'est la faute de Donald Trump et de ses droits de douane, c'est à cause de l'inaction en la matière de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles.
Donc, c'est le reproche de la bureaucratie, de la multiplicité de niveaux de décision, de règlements, etc.
Ouais, mais ce qui est frappant, c'est que la critique, elle va sur Bruxelles plutôt que sur Washington.
Oui, mais ça, je laisse à Bernard Arnault le choix de ses cibles. Mais si vous voulez, je reviens à ce critère de l'efficacité. Je pense que le Trumpisme est là le test ultime. Parce que on parle du Salvador. J'ai aucun mépris pour la République d'El Salvador, mais c'est 6,5 millions d'habitants. Ce que Bukele fait, s'il veut enfermer 80 000 personnes chez lui, ça n'a pas énormément de conséquences sur l'économie mondiale, tandis que ça a des conséquences sur les États-Unis puisque Trump décide d'y envoyer ses immigrés en situation irrégulière. Mais ce que va faire Trump, est-ce qu'il réussit à être efficace ou est-ce qu'il met l'économie mondiale à terre? Là, c'est le test ultime de l'efficacité, je trouve. Et ce qu'il est en train de faire avec l'état de droit, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est aussi un test énorme. Parce que y a des sondages récents qui viennent d'être menés aux États-Unis qui montrent que, bien qu'ils aient élu Donald Trump, les Américains sont quand même très préoccupés par ce qui est en train d'arriver à l'équilibre des pouvoirs, au partage des pouvoirs aux États-Unis, à la manière dont le pouvoir exécutif est en train de contrôler tout le reste, la manière dont Donald Trump étend son pouvoir exécutif comme jamais aux États-Unis. Et donc, on voit bien quand même que même dans les démocraties où les électeurs sont insatisfaits et en demande d'autorité, ils restent quand même très attachés aux structures de l'État de droit.
Farid Vaïd.
Sur
l'état de droit et sur cette question, c'est-à-dire sur ce constat que de plus en plus d'autocrates prennent le pouvoir de manière démocratique et sont validés par une attente qui s'exprime à la fois dans le vote et dans les sondages, c'est-à-dire une attente de plus d'autorité, de vrais chefs qui est capable de décider rapidement.
C'est très intéressant ce que je trouve notamment sur l'efficacité. Est-ce que j'ai pas forcément l'impression que le premier mandat de Donald Trump a été particulièrement efficace sur le plan économique, diplomatique ou autre? Donc c'est vrai qu'on a cette vision nostalgique de l'homme fort, compétent, mais c'est pas des dictateurs éclairés. On n'a pas affaire à Bismarck ou Napoléon. Voilà, en fait, on a cette vision de l'homme fort qui serait Charles de Gaulle. Mais je veux dire, aujourd'hui, ces personnes que vous citez, c'est pas... En fait, le vrai problème pour moi, je vois des personnes extrêmement mal... conseillers, incompétentes, populistes, et finalement, on doit se poser la question de l'éducation, finalement aussi. Mais forcément, dans une démocratie, c'est la majorité qui décide, et dans une démocratie idéale, il y a un niveau d'éducation tellement élevé où les gens ne voteraient pas pour Trump. Donc, il y a aussi la question de la désinformation, on n'en a pas parlé, les réseaux sociaux, tout le temps que les jeunes, ou les moins jeunes, passent sur les réseaux sociaux, et le temps que, voilà, peut-être avant, ils mettaient à lire ou à s'éduquer, aujourd'hui, ils le passent sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y a cette nostalgie, cette mélancolie de l'homme fort qui serait beaucoup plus efficace que le bureaucrate, le militaire qui serait plus, qui perd moins de temps que l'énarque. Mais dans les faits, les pays que vous citez ne montrent pas cette efficacité-là, je veux dire. En Russie ou en Iran, ils rêvent quand même toujours d'immigrer en Europe ou aux États-Unis. Peut-être plus maintenant aux États-Unis, mais ils viennent en Europe. Moi, je connais très peu d'Iraniens qui décident d'immigrer en Chine ou en Russie. Donc, voilà, il y a un paradoxe. Vous avez le modèle européen, le modèle de démocratie libérale qui donne envie à tout le monde, qui a gagné, mais on a l'impression, à part les Européens eux-mêmes, qui trouvent que leur modèle n'est pas efficace.
Marc Lazare.
Je crois que ce à quoi on assiste, c'est ce qu'avait prédit Tocqueville. C'est la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire, je gagne les élections et effectivement, un certain nombre de leaders, je parle pour les régimes démocratiques que j'appellerais consolidés. Je crois qu'il faut vraiment faire une distinction entre les régimes démocratiques consolidés, les régimes démocratie, tradition démocratique beaucoup plus faible, voire les régimes qui n'ont jamais connu de démocratie, par exemple la Chine, et je mettrais d'ailleurs la Russie. Donc, on a dans les... aux États-Unis, par exemple, cette tyrannie de la majorité. On voit ça aussi en Hongrie, on a vu ça aussi en Pologne. Le cas italien est beaucoup plus compliqué, je ne voudrais pas l'aborder aujourd'hui. Mais mon désaccord avec Bertrand Badie est net. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce n'est pas de l'idéologie. Au contraire, je dirais même, si on voulait faire une comparaison historique, que c'est une deuxième révolution conservatrice. On a connu la grande révolution conservatrice dans l'Allemagne de Weimar, entre 1918-19 et 1932. C'est différent, mais on a là un certain nombre de personnes. Alors, pas Donald Trump lui-même, qui n'est pas du tout, qui est quelqu'un de très pragmatique, qui peut changer d'avis du jour au lendemain, qui est sur les deals en permanence. Mais par exemple, dans le vice-président Vance, on a véritablement une conception idéologique bien claire. C'est-à-dire que c'est l'idée d'abord du nationalisme, c'est l'idée de la fermeté de l'autorité, c'est une autre conception de la démocratie, où il revendique d'ailleurs la liberté contre ce qu'il appelle le wokisme. Et donc, c'est la dissociation d'une certaine façon de la liberté de la démocratie, et c'est la volonté de renforcer au maximum le pouvoir exécutif. Et là où je rejoins Bertrand Badier, de ce point de vue-là, effectivement, on peut se dispenser de l'état de droit. Donc, ne négligeons pas ça. C'est-à-dire que c'est véritablement une construction idéologique qui est en train de se faire, qui a été préparée en particulier par la Heritage Foundation aux États-Unis, avec toute une série
Qu'est-ce
de
Qu'est-ce que
relais.
C'est, pardonnez-moi,
c'est toute une fondation très traditionnaliste et conservatrice, qui a des extensions mondiales. Le modèle d'un certain nombre de républicains américains, il est au cœur de l'Europe. C'est la Hongrie de Viktor Orban, qu'ils ont étudié en considérant que c'est un modèle et qu'il va falloir l'imiter. Et qu'est-ce qui se passe en Hongrie? Bah, c'est effectivement ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est-à-dire un régime qui fait voter les électeurs, et d'ailleurs à Budapest, par exemple, l'opposition gagne, mais qui réduit de plus en plus les libertés, qui a interdit, par exemple, constitutionnellement la gay pride maintenant en Hongrie, qui réduit les libertés. Et aux États-Unis, on assiste actuellement à une attaque en règle contre les libertés académiques, contre les universités. Donc là, il y a un véritable projet, et qui est loin d'être un projet non idéologique, qui est au contraire un projet idéologique comme une alternance, ou une alternative, pardon, à la démocratie libérale et représentative classique. L'enjeu est là.
Bertrand Badie.
Oui, enfin, c'est peut-être une querelle de mots entre nous, Marc, mais quand même, il ne faut pas négliger que cette révolution que tu décris, c'est une révolution non pas modèle contre modèle. Il y a une sorte de réhabilitation forcée des valeurs traditionnelles, oui, qui devient, oui, un dénominateur commun unissant Poutine, Trump, Vance, beaucoup de leaders du Sud également, qui sont très sensibles, non pas à la production d'une nouvelle vision du monde, d'une idéologie, d'une cité nouvelle, mais qui est tout simplement, qui consiste tout simplement à instrumentaliser la tradition pour en faire un élément de répression. La lutte, assez incroyable d'ailleurs dans les dimensions qu'elle prend aujourd'hui contre le fameux wokisme, dont personne ne sait très exactement ce que c'est quand même la tentative de stériliser un débat qui a ses excès, quelquefois des excès qui confinent au ridicule, je suis bien d'accord, mais qui est en train quand même de faire émerger en sciences sociales plein de pistes nouvelles sur le rôle, par exemple, du comportement des dominés dans la production et la reproduction de la société. Le fait qu'on n'ait même pas le droit d'en parler montre que l'on n'est pas dans une idéologie. On est dans la contre-idéologie. C'est-à-dire, on est dans l'instrumentalisation politique, je dirais même coercitive, des valeurs traditionnelles pour gouverner. Mais ces gens-là n'ont pas un idéal de cité à offrir, sauf de favoriser cette rétraction identitaire qui consiste à jeter un discrédit en même temps sur l'autre et en même temps sur les perspectives de transformation de la société. Et c'est en cela que c'est une rétraction des libertés.
Si vous en êtes d'accord, on va laisser le mot de la fin à Sylvie, oui, Kaufmann, parce qu'on est déjà au terme de cette émission.
Sylvie Kaufmann. Je pense que c'est une... Moi, je suis plutôt d'accord avec Marc. C'est une, on est face à une véritable offensive idéologique, mais qui a des traductions diverses suivant là où elle se passe. Mais cette fameuse internationale réactionnaire, qui est une expression en fait qui vient de chercheurs argentins, elle décrit bien les points communs qui est l'ultraconservatisme, le nationalisme, le virilisme, la minoration du rôle des femmes, etc. Mais juste pour une dernière chose sur la différence entre Orban et Trump, c'est que Orban, il est en Europe, oui, et on voit que l'offensive de Trump est infiniment plus puissante, infiniment plus forte et infiniment plus dangereuse finalement que celle d'Orban, qui reste lui un petit peu quand même encadré par l'Union européenne et par les valeurs européennes.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie Kaufmann, Marc Lazare, Bertrand Badi et Farid Vahid d'avoir participé à cette émission préparée par Léa Varin, réalisée par Luc Jean Reynaud, avec à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine.